What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
No.
Scene one, Apple, take one.
Hey,
Moi, j'étais dans une prison exemplaire.
De dénoncer la barbarie machiste qui sévit dans les banlieues.
Sauf que ces règles datent de 1937.
L'homme est celui qui a laissé la plus grosse empreinte sur notre
dernier million d'années. Les forêts se sont progressivement transformées en vastes prairies.
On retrouve sa trace aussi bien dans l'espace que sous terre.
S'adapter aux grands phénomènes perturbateurs.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Arrête ton cinéma, l'émission qu'on adore regarder à la radio. Alors, voilà, aujourd'hui, on va faire sur les films documentaires. On en a des tartinés et des tartinés. Alors, si, auditeur, tu aimes le soporifique, tu aimes dormir tranquillement, ou tu adores Derrick.
C'est pas vrai, le documentaire, c'est pas soporifique.
Merci, Hugo, de ta remarque. Donc,
petit
tu voulais.
Con.
Oui, ça par contre tu pouvais éviter.
Le film documentaire ou le documentaire est un genre cinématographique et télévisuel. En radio, on parle de documentaire radiophonique. En général, un film documentaire est un type informatif ou didactique. Qu'est-ce que c'est que ce mot ?
Didactique ta mère ?
C'est bien. Il utilise soit tel quel, soit en les combinant et en les agrémentant de commentaires rétrospectifs des documents iconographiques authentiques.
Ouh, c'est très tantrique, toi.
Oui. Sort. Les documentaires représentent souvent le domaine de l'histoire ou des activités humaines, ou bien le monde naturel. Ils s'opposent donc à la...
fiction.
C'est bien. Une telle définition n'est toutefois pas stricte, car un documentaire peut... recouper certaines caractéristiques de la fiction, notamment via la reconstitution comme le docu-fiction ou à travers la réflexion en amont sur le sujet, ça tu l'as pas trouvé, hein, qui peut donner lieu à un scénario plus ou moins élaboré. Oui, c'est souvent moins. De même, le tournage d'un documentaire influe sur la réalité qu'il filme et la guide parfois, rendant donc illusoire la distance théorique entre la réalité filmée et le documentariste. Encore un petit paragraphe et après je vous laisse avec Gwen, que là vraiment ça sera soporifique. Le documentaire se distingue aussi du reportage. Il est parfois très difficile de faire la distinction entre reportage et un documentaire. Il faut donc juger les œuvres dans leur globalité sur un ensemble de critères plus ou moins subjectifs, parmi lesquels on peut citer les intentions de l'auteur, le synopsis, la durée du film, les choix de cadre, la sophistication du montage, l'habillage sonore et musical, les techniques utilisées, le langage, le traitement du temps, l'utilisation d'acteurs, les reconstitutions, les mises en scène, l'originalité ou encore la rareté. Point. Il est aussi possible de distinguer le documentaire du reportage en évoquant le fait que l'auteur d'un documentaire appelle la réalité à soi, tandis que le rapport est inverse pour le reportage. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. C'est à vous, monsieur G.
Oui, alors,
comme
tout
le
à
point.
Fait. Oui, voilà. Merci, monsieur H. Effectivement, dès le début du cinéma, la chose s'impose d'elle-même.
Quelle chose ?
Il y a une branche documentaire avec les frères Lumière et une branche fiction avec Méliès. Le réel contre l'imaginaire. C'est d'abord un adjectif qualificatif. Il arrive dans les années 20 à un genre cinématographique. En 1926, John Grisen utilise le mot « documentary » emprunté au français pour « Manohana » de Robert Flaherty dans un article du journal new-yorkais The Sun. Comme toute production cinématographique, le film documentaire évoluera en fonction des critères techniques, économiques, esthétiques et idéologiques. Il nous informe autant sur le filmeur que sur le filmé, il nous informe aussi indirectement sur le spectateur auquel il est censé s'adresser. Donc, les origines du documentaire. Les frères Lumière, forts de leur prestige et de leur matériel fiable, envoient des opérateurs aux quatre coins de la planète pour vendre leur appareil cinématographe. En 1896, Francis Doublier filme le couronnement du tsar Nicolas II. R.W. Paul, le jubilé de la reine Victoria en 1897. L'année suivante, Charles Dickinson plante sa caméra au Vatican devant le pape Léon XIII, et non, ce n'était pas François. On n'hésite pas à en mettre en scène des reportages factices. Le Britannique James Williamson, pionnier du montage, tourne dans son propre jardin l'attaque d'une mission en Chine en 1901. L'évocation évidemment de l'insurrection des boxeurs qui a lieu à cette époque-là en Chine. Alors qu'il aurait mieux fait de regarder les 55 jours de Pékin, ce qui était quand même plus admirable.
Et en couleur.
Et en plus, avec David Niven. En 1990, lors d'une démolition au Royaume-Uni, on découvre plus de 800 films courts tournés entre 1897 et 1913 deux photographes de la ville de Blackburn, tout juste convertis au cinéma. Sagar Mitchell et James Cannon. Leur slogan, « Local film for local person ».
S'ils ont compris, les gens, bravo.
Local film for local people.
Yeah.
Donc des sorties d'usine, des rencontres sportives, des fêtes scolaires, des processions religieuses, le peuple ouvrier de la belle époque édouardienne. Chantier naval, charbonnage, aciérie, filature, pauvreté, crasse exploitation des femmes et des enfants. Michel et Cannon, ce sont des sociologues qui s'ignorent. On veut aussi parler du projet Archives de la planète. Projet encyclopédique du banquier et philanthrope français Albert Kahn, qui de 1909 en 1930 archive des milliers de clichés, même en couleur selon le procédé Lumière, pris aux quatre coins de la planète. Il voulait réunir des documents bruts et non composés des récits cinématographiques. En 1911, par exemple, Herbert G. Poynting, photographe et cinéaste britannique, rapporte la tragique expédition de Scott en Antarctique. Un premier montage en 1922, The Worst Place in the World, puis repris et sonorisé en 1933 par la Gaumont, sous le titre 90 degrés sud. Le grand photographe Edward S. Curtis filme les Navarros, pas l'inspecteur. Hein. En 1904, il présentera son travail en 14, In the Land of the Headhunters, consacré au Kwakult de la région de Vancouver. Évidemment, par la suite, c'est la première guerre mondiale, 14-18, et pas celle de 78, comme ça dirait certaines victimes de la télé-réalité. En 1916, Klein Schmidt tourne la guerre sur trois fronts, du côté austro-allemand, les Anglais J.B. McDowell et Malins, la bataille de la Somme. Effectivement, la plupart des documents qui ont lieu sur la Première Guerre mondiale seront hélas censurés, puisqu'ils sont considérés comme étant démobilisateurs par l'accumulation d'horreurs qu'ils évoquent, et resteront longtemps hélas dans les archives. Pour la seconde, ce sera pareil, surtout pour ce qui concerne les camps de la mort. À partir de 1920, le film de voyage ou d'exploitation redémarre de plus belle. Et là, le plus connu, Hugo, le plus connu, c'est évidemment Nanouk. Nanouk Grimbert, non, Nanouk tout court.
Nanouk aimé ?
Nanouk aussi, merci. De Robert Flaherty, qui est distribué par la Pathé en 1922. C'est un film fondateur. Flaherty a longtemps parcouru le nord américain et canadien, s'intéressant de très près à ce qu'on appelait à l'époque les Esquimaux.
Les glaces ?
Oui, c'est ça, avec leurs bâtons. Alors, c'est un film admiré, mais aussi décrié. Parce qu'évidemment, pour certains plans étaient arrangés, les objets ou outils modernes un peu escamotés. Il y a une mise en scène, comme pendant la séquence de la chasse aux phoques. Donc, mais il en extrait quand même une certaine générosité. Nanouk ouvrira les portes de la Paramount à Flaherty. La légende dit que Lasky lui aurait lancé « Rapporte-moi un autre Nanouk », entendant un chèque en blanc au cinéaste. Évidemment, en 1926, Mauna, que Flaherty tourne aux îles Samoa, qui est quand même plus un échec. Ensuite, il y a L'homme d'Aran en 1934, qui est un superbe poème fait à l'Irlande, mais qui là aussi sera décrit. En 1925, la Paramount distribue avec succès Grass, donc Herbe hein, si vous préférez, un film tourné par Marianne Cooper et Ernest Schotzak. Donc c'est la migration d'une population nomade avec ses troupeaux entre Turquie et Perse. À l'époque, ça s'appelait la
Super
Perse.
Intéressant. Hein.
Voilà, donc des images, mais point de récit. Chang, 2 ans plus tard, récit.
C'est le pote à Tintin ?
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est la version Nanouk, mais au Siam. Ah. Donc voilà. Donc,
il n'y avait pas de parole là, rien ?
Non. C'est la visite de l'homme moderne chez l'homme primitif. Le fameux film.
Mais est-ce que c'était des documentaires de propagande ?
Non, mais justement, chez Martin et Osa Johnson, il y a le fameux film Congorilla en 1922, mais qui est assez condescendant, voire assez raciste, faut bien le dire. A l'inverse, Marc Allégret filme le voyage au Congo en 1927 avec son pote André Gide, vous savez, les caves du Vatican. Donc pour dénoncer le colonialisme ordinaire en 1926.
Excuse-moi, te coupe. André Gide, c'est celui qui a écrit la symphonie pastorale ?
Oui, oui, voilà.
Ah oui, d'accord, c'est lui.
Tout à fait. Oui, les caves du Vatican. En 1926, et là ça, peut-être ça te parlera plus, mon cher Hugo, Léon Poirier avait tourné La Croisière Noire.
Ah bah oui, oui, oui.
Un raid automobile. Non, mais c'est le fameux raid automobile de Citroën en Afrique.
Ah oui, oui.
Voilà, c'est ça. Quelques années plus tard, Citroën renouvelle l'expédition.
Dans le désert, tu veux
voilà,
dire.
C'est ça. Ouais. Et du Liban jusqu'en Indochine. Et ce film, en fait, qui a été tourné par André Sauvage, mais qui hélas n'a pas pu le monter, raconte quand même beaucoup de tragédies.
Ils avaient fait une série, je crois, là-dessus.
Ouais, c'est
là.
Ça.
Et il y avait Léotard, me semble, l'acteur
oui.
dedans.
Oui, et puis ça, c'est ce fameux La Croisière Jaune. Donc évidemment, en même temps, Nanook se développe aux States, mais évidemment, la jeune République soviétique ne reste pas dans son tiroir, puisque un jeune réalisateur farouche, adversaire du cinéma de fiction, démonte une théorie du cinéma documentaire, Dzinga Vertov.
Ah oui.
Il ne faut pas quand même oublier qu'en 1919, Lénine avait nationalisé l'industrie cinématographique.
Vertov, c'est celui qui voulait filmer les choses telles qu'elles étaient.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est le fameux manifeste Kinnock, paru en 1922, qui donne le ton. Le signe-œil, c'est la possibilité de rendre visible l'invisible, d'éclairer l'obscurité, de mettre à nu ce qui est masqué. Signe-œil. Alliance de la science et des actualités cinématographiques dans le but de lutter pour le déchiffrement communiste du monde. Une tentative pour montrer la vérité à l'écran par le Kino Pravda, le fameux cinéma vérité, puisque Pravda veut dire vérité.
Comme le journal.
C'est ça, ben oui, c'est le
surtout
journal.
Surtout les Russes, en vérité, oui. Ils sont très très forts.
Oui, surtout à cette époque-là, oui. Sous l'ère soviétique, c'était ouh là, c'était une grande vérité.
Donc, c'était une vérité unique.
Universelle, dirais-je même. Puisqu'il y a quand même évidemment plusieurs théories soviétiques sur le cinéma. La monteuse Esther Choub, donc, qui était une monteuse formaliste et surtout. Beaucoup de montage.
Ah oui, qui fait des montages.
Oui, bah oui, voilà. Oui, qui fait beaucoup de montages idéologiques. Donc, son plus célèbre, c'est la chute des Romanov en 1927. Alors, tu vois, la propagande russe est tellement costaude que quand les spectateurs voient la prise du palais d'hiver reconstitué par Eisenstein dans octobre, il a été considéré longtemps comme une séquence d'actualité. Les films documentaires sont aussi l'apanage et l'expérimentation de l'avant-garde, puisqu'on est évidemment on est au début du cinéma. Oui. Donc en 1921, Charles Schicker et Paul Strand filment Manhattan à New York. Le franco-brésilien Cavalcanti, vous vous souvenez de ce nom parce qu'il reviendra celui-là, explore les rues de Paris dans Rien que les heures en 1926. Berlin, symphonie d'une grande ville, l'année suivante de Rudman. Film qui se veut moderne. Et c'est là où, évidemment, il y a plusieurs, évidemment, ce qu'on appellera les City Symphony, puisqu'on verra la ville de Rotterdam de Joris Jeven dans le film de Brugge en 1928, Sao Paulo, Symphony of Metropole et Lisbao, Anecdotica en 1930. Et c'est là, évidemment, comme tu me parlais, c'est l'avènement du parlant. Donc c'est là aussi, parce que John, ce fameux John Grierson, au Royaume-Uni, prend conscience de l'importance de la communication de masse dans la vie d'une démocratie. Et c'est là qu'il tourne Driften, qui est en fait, ce qui veut dire chalutier, c'est un film sur la pêche au hareng. Voilà.
Il sort.
Donc c'est un grand succès en 1922 et il sera évidemment passé la première fois en présence de Sergei Eisenstein et en première partie du QRSC. Potemkin.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et Grayson et Talent créent une unité de production documentaire, Lamp Marketing Board Film, qui deviendra la General Post Office, le fameux GPO.
Évidemment, pas confondre avec la GTO.
Oui, voilà, c'est ça. Merci. Évidemment, Grayson développe.
Oui, ça n'a rien à voir avec les experts.
Voilà, c'est ça, merci. Quoique, en même temps, il était un expert lui aussi.
Dans son domaine.
Voilà, c'est ça, puisqu'il y a Paul Rota, Arthur Elton, Stuart Legg, Basil Wright, Harry White, Watt, Len Lane, Norman McLaren, Humphrey Jenkins, le poète W.H. Auden ou le musicien Benjamin Britten.
Benjamin Britten.
Non, Britten.
Ah.
Britten.
Non, tu m'as fait peur.
Oui, non, non. Et évidemment, ils font appel à Flaherty, puis à Cavalcanti.
Ça, c'est que des ricains ?
Non, ça, c'est les Anglais, ça. En 1935, Cavalcanti consacre un film Cold Face aux mineurs de charbon. Edgar Anstey et Arthur Holton dans Housing Problem donnent la parole aux mal logés. Harry White et Basil Wright, l'année suivante, évoquent brillamment le travail des postiers et des cheminots sur le train de nuit London-Glasgow dans Night Mail. Donc évidemment, en 1938, Grayson part au Canada et participe à la fondation de l'ONF.
Office National des Forêts.
Non, mais non, des films. Office National du film au Canada Tabernacle. Et donc c'est Cavalcanti qui prend la suite de GPO. C'est là où comment le documentaire rejoindra une nouvelle fois l'histoire, puisqu'en durant la Seconde Guerre mondiale, la GPO deviendra The Crown Film. Donc, et qui aura quand même son importance. Grayson reviendra en terre britannique et fondera le groupe 3, qui aura hélas très peu de succès, sauf un film, The Conquest of the Everest, donc l'ascension de John Hurt, de Sir Edmund Hillary, qui était néo-zélandais, hein, rappelons-le, et du Sherpa Tenzing.
C'était en quelle année ça ?
C'était en 53.
Merci.
Donc l'année du décès de Staline. Cette même année, Marcel Ishak filme Victoire sur l'Annapurna. Donc évidemment, les States ne sont pas en reste, puisque tu les connais quand même. Bien que le documentaire reste quand même assez relégué à une seconde catégorie, une certaine catégorie de photographes et de réalisateurs parle de la misère sociale. Donc le film le plus connu, c'est Hunger, qui est consacré aux marches de la faim, suite évidemment aux événements du Jeudi Noir en 1929. Le président Franklin D. Roosevelt, élu en 1933, va encourager cette démarche. En 1934, Hands, donc les mains, hein, de Ralph Steiner et de William Van Dyck, éloge du monde du travail. En 1936, The Plow That Broke the Plane, du jeune Par Lawrence, dénonce la surexploitation des sols. Déjà, l'écologie, hein.
N'existait pas à ce mot à l'époque, je pense.
De quoi ?
L'écologie.
Non, du tout. Non. Donc, The River, donc le fleuve Mississippi, c'est un film qui a été confronté aux terribles inondations de 1937. Paramount assurera la distribution. Et oui, puis c'est aussi la création par le groupe Time du magazine filmé. The March of Time, dès 1935. De plus en plus, l'image devient costaude. C'est qu'on va tomber dans la propagande, évidemment, puisque la guerre d'Espagne a lieu.
En 36,
tout à fait. Et évidemment, divisant l'Espagne en deux, entre Franco et le Front Populaire, avec l'esprit rebelle. Donc, du côté républicain, on a Terre d'Espagne, de Joris Evans. Vous souvenez du film Rotterdam? Image de John Fernow, montage de Helen Von Dungen. Et il y a deux versions anglaises. Une première d'Orson Welles et la seconde d'Ernest Hemingway. Donc, et une version française par Jean Renoir. Herbert Klein tourne deux films, Heart of Spain en 1937 avec le hongrois Karpaty et Return to Life en 1938 avec le français Cartier-Bresson. Et évidemment, là aussi, les Russes, Roman Karmen et Boris Makassiev, qui tournent des films et qui seront montés évidemment par notre cher ami Esther Schub, Hispania en 1939. Puisque là, on va partir en Allemagne, puisque Joseph Goebbels prend le contrôle des médias. Leni Riefenstahl, premier propagandiste du Reich. Alors là, tu vas devoir m'aider, parce que l'allemand, c'est pas mon strip. Hein.
Mon donc, strip.
Mon strip.
Mon string.
Trig des Globen, donc victoire de la foi. En 1933.
T'as la prononciation à Papa Shoot.
Merci, ouais. Et puis, Triomphe des Vilaines, donc la Triomphe de la Volonté en 1935. En 1936, Riefenstahl filme les Jeux Olympiques dans le film Olympia, donc phare de la propagande nazie. Il y aura aussi Fritz Hippler qui fera la campagne de Pologne en 1939 et Sieg in Westen, donc les victoires à l'ouest en 1941. Donc évidemment, toute une puissance à la gloire militaire allemande. Évidemment, il y a aussi le pamphlet antisémite Der Juden en 1940. En Angleterre, évidemment, la Royal Air Force, la Navy et l'armée tournent de nombreux films comme avec la fameuse Crown Film dont oui, j'ai parlé, quoi. Pour la morale de la population anglaise et surtout pour celle de l'Empire. C'est l'Empire contre-attaque, comme on dit. Target for Tonight, d'Harry White, la cible de ce soir, en 1941, raid d'un bombardier anglais sur les côtes allemandes. The True Glory, de Carol Reed, le débarquement des alliés en Normandie. Alberto Cavaccalli ridiculise la gestuelle de Mussolini dans Yellow Submarine. Déjà les Beatles. En français, on sait César.
Beatles.
C'est ça. Version française, c'est César Froussard en 1942.
César quoi ?
César Froussard.
Comme le papy.
Oui, c'est ça. Grand du moment, c'est Humphrey Jenkins. L'Angleterre est seule à face à l'ogre nazi. Jenkins avec Harry White, Londres can't take it. Londres tient le coup. Chronique de la vie sous les bombardements avec la journaliste Quentin Reynolds. Donc il faut mobiliser l'opinion américaine, puisque évidemment Churchill cherchait à ce que les Américains rentrent en guerre. Pour Jenkins, le nazi c'est le surhomme, et le héros par contre c'est l'homme ordinaire. Listen to Britain, donc la mobilisation anglaise. Fire where started, des incendies sont déclarés en 1943, donc l'action héroïque des pompiers. Diary for Timothy de 1944 à 45, interrogation sur l'avenir de la démocratie. Les États-Unis évidemment rentrent en guerre, et là aussi il faut un peu sponsoriser le public de pourquoi qu'on va faire la guerre. Les studios s'adressent à Frank Capra, qui est au sommet de sa réputation et qui sera le général de l'attaque, bien qu'il n'y connaisse rien du tout dans les documentaires, hein, parce que pour lui c'est des films de dilettantes réalisés par des farfelus à cheveux longs, donc c'est vous dire. Donc Capra et ses potes d'Hollywood, dont Anatole Livac, feront la série Pourquoi nous combattons. Donc cette film pédagogique de 75 minutes destinée aux GIs. Donc il y a Prélude à la guerre, les nazis attaquent, Divisé pour régner, la bataille d'Angleterre, la bataille de Russie, la bataille de Chine et enfin War Comes to America. Donc ces films seront diffusés évidemment largement au-delà des casernes. C'est pas hyper subtil, hein, il faut bien l'avouer, le commentaire est assez péremptoire. Oui, je l'ai utilisé ce mot. Il y a la dénonciation de l'ennemi, l'éloge des alliés, un petit peu trop rapide d'ailleurs, hein, puisque évidemment on fait la grande glorification de l'URSS et évidemment de Staline, le fameux Uncle Joe. Donc John Ford là aussi sera poussé puisqu'il fera la bataille de Midway dans le Pacifique. William Wyler avec Memphis Belle, donc le fameux équipage du bombardier. John Huston, Battle of San Pietro, évidemment dans la fameuse campagne d'Italie. Donc évidemment il y aura tout le procès de Nuremberg et aussi ce qui sera évidemment les camps de la mort. Donc en France...
Faut accélérer après.
Oui, tout à fait.
Si tu les fais tous, après là tu vas faire quoi, la guerre froide? Non, la guerre du Vietnam, tu vas faire toutes les guerres, non?
Non, mais parce que c'est hyper important, parce que évidemment, une fois la guerre finie, chacun repart chez soi.
Oui.
Évidemment, la France, il y a aussi des grosses productions de courts-métrages durant 30 ans, mais c'est des petits films sans intérêt. Là, en 1953-54, il y a une trentaine de réalisateurs, de cinéastes qui se mobilisent, ce qu'on appellera le groupe des 30, alors qu'ils seront en fait un peu plus, ils seront plutôt vers 42-43. Parce que eux, ce qu'ils veulent dénoncer, c'est le nombre croissant de ce que Queneau appelait de fameux docu-cu. Hein, des docu-cu. Bah oui, c'était un peu gnangnan quand même. Hein. Heureusement, il y a quelques petits bijoux, donc Taris de Jean Vigo en 1931, l'Hippocampe de Jean Painlevé, 1934, Karakoram de Marcel Ishak, 1936, Ceux du rail de René Clément. René Clément.
Bataille du rail.
Voilà, c'est ça, merci.
C'est ça que tu voulais.
Voilà, c'est ça. Le tonnelier de Georges Rouquier, Goémont de Yannick Bellon en 48, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En 1955, le film de René, avec le commentaire de Jean Créole, pose une empreinte sur le mémoire collective, donc dans le fameux Nuit et brouillard. Ça a été un film censuré qui portait atteinte à l'imagerie de la France tout entière. Ça a parlé de la France sous l'occupation, donc évidemment
oui,
à l'époque on
aimait...
Ouais, c'est assez tabou. Ça a été le même sort pour Afrique, qui a été tourné en 50 de René Vautier, et Les statues meurent aussi, de Chris Malker et Alain René, qui dénoncent la bonne conscience colonialiste. Voilà, le film d'art s'impose. Alain René signe Van Gogh en 48, Jean Aurel L'Enfer Manet en 51, Pierre Caste Le Corbusier, architecte du bonheur en 55, et en 1955, Henri-Georges Clouzot tourne un film unique, Le Mystère Picasso, où l'on surprend l'achèvement, l'évolution ou l'échec d'une œuvre qui se crée devant la caméra. Picasso joue un grand acteur. Mais ne nous leurrons pas, le film docu n'a qu'une petite place et il ne faut pas qu'il en bouge. La preuve, s'il n'en est, c'est la petite bataille d'Hernani qui occasionne la présentation de Phare Brique de Rouquier au festival de Cannes. Admirateur inconditionnel de Flaherty, il filme comme son idole, une famille paysanne en occitan. L'enregistrement du son sur pellicule optique suppose donc des dialogues évidemment écrits, d'où une certaine maladresse. Henri Janson lance ce film, n'est rien. Fabrique est écarté de la sélection officielle, il est présenté hors compétition, et c'est pour lui qu'est créé le prix de la critique internationale. Rouquier devra attendre 1983 pour donner la suite de Phare Brique phare. Donc c'est l'évolution aussi, puisqu'il y a quand même l'évolution du matériel, mon cher.
Heureusement.
Bah oui, moi, je vais citer pour les puristes. Donc la caméra Oricon, Ariflex 16 et l'éclair écoutant. Et évidemment le magnétophone synchrone Nagra et Perfecton. Puisqu'on le voit dans le chronique d'un été en 1960, le sociologue Edgar Morin propose au cinéaste Jean Rouche, spécialiste ethnologue en Afrique, une expérience, l'exploration de la faune moderne de la société française. Donc évidemment l'homme clé c'est l'opérateur Michel Brault, donc avec une caméra à 16 mm et le fameux magnétophone Nagra. Donc la pellicule est plus sensible et évidemment ça permet un avantage de la liberté. Mais aussi il préfigure hélas l'anecdotique et le porte-nawak dans ce qu'on appellera désormais les micro-trottoirs. La fameuse télé-people, vous connaissez que...
Allô ?
Allô ? Oui, évidemment, Mario Ruspoli et Michel Brault tournent en Lozère les inconnus de la Terre sur le monde rural français en voie de disparition. Le chagrin et la pitié en 1969, film magistral où Marcel Olfus, film sous-titré chronique d'une ville française, se l'occupation. Donc c'est la remise en question de la bonne conscience franco-française. Au States, il y a un nouveau type de document qui apparaît. Primary, je ne sais pas si tu connais ce film, en 1960, qui est produit par Robert Drew pour le groupe Time Life. Donc c'est la chronique de la compétition à l'intérieur du parti démocrate. Le sénateur Humphrey contre le sénateur JFK Kennedy pour la présidence. Robert Drew multiplie les points de vue. On suit les deux candidats, voiture, sortie d'usine, main serrée, discours, la grande parade. Le fameux Travelin ou Mails suit JFK depuis sa voiture devant le bâtiment où se tient la convention démocrate jusqu'à la scène où sera prononcé son discours. Là, le cinéma rentre-t-il dans le documentaire ? Time Life sortira trois versions, une de 26 minutes, une de 45 et une de 55, puisque là aussi il y aura pas mal d'histoires de censure aussi. Les célébrités prennent l'écran. Penn filme Jane Fonda en 1963, puis Bob Dylan et Joan Baez Don't Look Back, Albert et David Meisel, donc le fameux caméraman, les Beatles, What Happened In en 1964, puis les Rolling Stones, Kimmy Shelter en 1970. Les mêmes mêlées se filmeront des vendeurs de Bibles, Salesmen, qui voyagent de Boston en Floride, mais leur vision de l'Amérique d'en bas est si dérangeante qu'il ne sera diffusé que 30 ans plus tard. En 1973, Frederick Wiseman signe son premier film, Titty Cat Follies, tourné dans une prison pour malades mentaux dans l'état de Massachusetts. Le film, évidemment, sera aussi censuré et devra attendre 20 ans. Et ça devient une cause célèbre, ce film, quand même.
Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Voilà, on peut dire ça comme ça aussi.
Je t'accorde jusqu'aux années 90.
Ok, merci, c'est sympa.
Après, je te coupe la parole.
Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il y a aussi l'apparition de Raymond Depardon, photographe et puis réalisateur qui occupe une place à part dans le film documentaire français. Il filme Valérie. Français. En 1974, durant sa campagne électorale. Et la diffusion, évidemment, sera gelée par la volonté de son commanditeur.
Valérie ?
Oui, bah oui, voilà, c'est ça, Valérie,
ou
c'est
les
permis.
Beaux diamants.
Voilà, c'est ça. Il sortira en 2002, sous le titre 1974, une partie de campagne. Et évidemment, il sera inévitablement comparé à Primary. Depardon continue son travail de presse avec Numéro 0 en 1980, puis Reporter en 1981. Il y a aussi le film San Clemente, tourné à Venise en 1989, sur la psychiatrie. Et la justice aussi sera un sujet dans Délit flagrant en 1994. Le monde rural de son enfance fera les beaux jours de Profil paysan, qui est une série commencée en 1990. Alors, si les années 60 sont pop, ils sont aussi moments de crise internationale, puisqu'évidemment, il y a l'affaire Cuba, il y a Berlin, le mur, Paris, mai 68, et Prague, évidemment, aussi. Le Vietnam, les dictatures en Amérique du Sud, le processus de décolonisation de l'Afrique, les problèmes de société, l'agitation étudiante. En 1959, Lionel Rogozin filme clandestinement dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, Come Back Africa. La dernière tombe de Dimbaza de Nana Mahoma. Oh. 1973, également clandestin sur la réalité des townships. Évidemment, aussi en France, il y a le film Octobre à Paris de Jacques Prien qui dénonce la politique envers les manifestants algériens en 1961. évidemment, l'inévitable Vietnam, puisqu'on avait fait la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et évidemment, il y aura en 1967, 17e parallèle sur la guerre du Vietnam, de Joris Even, encore lui, et Peuple et des fusils en 1970. Évidemment, Emile Antonio dénonce l'intervention américaine dans le Vietnam, donc dans le film L'année du cochon, qui évidemment sera aussi tout le parallèle évidemment avec le Laos et le Cambodge. The Ceiling of the Pentagon en 1971 de Peter Davis, parce qu'il s'agissait évidemment de là aussi, puisqu'on avait parlé qu'il fallait engager les Amériques durant la Seconde Guerre mondiale, et bien là évidemment il s'agit aussi d'émouvoir l'opinion publique. Il y a aussi tout ce qui est conflits sociaux, The Harlan County, tourné par Barbara Coppel de 1973 à 1975, qui monte une grève qui oppose des grévistes à leur employeur, avec évidemment l'apparition de quelques fusils aussi. Il y avait aussi, c'est un petit bijou ça aussi, c'est Following Sheen, sort en 2006, de Ralph Ehrlich, et qui va en fait suivre l'enfance de Sheen jusqu'à l'âge adulte, l'évolution d'un enfant issu de la communauté Rainbow ou Peace and Love. Évidemment, l'Amérique latine aussi va intervenir, l'heure des brasiers en 1968 de Fernando Solanas, qui est un essai révolutionnaire pédagogique. Patricio Guzman, qui est réfugié à Cuba après la chute d'Allende, consacre 4 films sur le sujet de la bataille du Chili de 1973 à 79. En France, en 74, Gardem lo Lazac de Philippe Adiguet filme la résistance paysanne. Il y a aussi, puisque je te disais, en 1985, Shoah de Claude Lanzmann, qui démontre les rouages de la solution finale. En Japon, Shirosuke Ogawa montre la révolte paysanne contre l'implantation d'un aéroport dans un été à Narita en 1968, et Noriaki Chumimoto dénonce l'empoisonnement au mercure d'une communauté de pêcheurs, la maladie de Minamata. 71, il faut le voir celui-là, je crois qu'il avait été passé par Thalassa d'ailleurs, il me semble, puisque c'est là où on voit un chat atteint de Saturnisme et qui tourne en rond. Ben, franchement, ça fout les pétoches, hein, je vous le dis. Et évidemment, il y a aussi en Inde Tapan Bose, qui a été un film primé et censuré, qui filme Bhopal, le génocide aussi. Et c'est là que les grands se mettent au documentaire. Il y a Louis Malle en 69 qui tourne en Inde, Calcutta, puis en 74, Place de la République à Paris. En 1986, il explore l'Amérique profonde avec God's Country, si vous dire. Raoul Peck monte un épisode tragique de la décolonisation, Lumumba, la mort d'un prophète. Spike Lee, 1997, Four Little Girls, il consacre son film à un attentat raciste qui a eu lieu en 1964 contre une église de Birmingham.
Martin Scorsese aussi qui en a fait.
Oui, il y en a beaucoup, mais là, je n'ai pas tout le PL, vous m'excuserez. Hein. Donc, avec la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, que reste-t-il du documentaire ? L'avancement du matériel numérique, la télévision, puis le net, la spécialisation des chaînes thématiques aussi. Il y a plus de moyens financiers, mais hélas, avec un sacré revers, puisque ces nouveaux diffuseurs financiers ont souvent des exigences qui réduisent la liberté d'initiative des auteurs. La diversité des styles, des formats, on l'en voit s'amendrir la frontière entre, comme disait Hugo au début de l'émission, entre le documentaire et la fiction. La BBC TV est un poids lourd des documentaires, parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui ont été tournés par la BBC et qui sont extraordinaires. Channel 4 ou Granada TV. Le quotidien devient un sujet passionnant. La Suisse Jacqueline Veuve, qui a un nom prédestiné d'ailleurs, fera son film « La mort du grand-père ». Claire Simon suit les hauts et les bas d'une entreprise avec coûte que coûte en 1995. Pour aborder le film, le sujet du planning familial, elle n'hésitera pas à côtoyer la fiction dans Les Bureaux de Dieu en 2008. Agnès Varda explore la pauvreté en France dans Les Glaneurs et la Glaneuse en 2000.
Donc après que M. Gouane ait fait un putsch sur le micro, je vais enfin avoir le droit de parler au bout de 35 minutes de monologue intense. J'espère que vous êtes toujours éveillés. Donc, lorsqu'on évoque le documentaire, j'ai droit à 5 minutes, ça ne prendra pas plus long. Parce que je suis petit, donc j'ai moins de temps de parole. Lorsqu'on évoque le documentaire, on se heurte souvent à un malentendu. Le documentaire reste la plupart du temps assimilé au reportage journalistique ou encore à un cinéma cantonné à sa fonction pédagogique ou scientifique. Or, la vocation du documentaire n'est ni de l'ordre de la communication ni du didactisme. Il ne dispose pas de recettes et peut emprunter toutes les formes d'expression et s'approprier tous les sujets. Du cinéma direct au documentaire de mémoire, du portrait intimiste au cinéma militant ou encore du cinéma expérimental au film ethnographique. Il n'existe a priori aucune limite au champ du documentaire. Cette diversité d'approches va à l'encontre de l'idée selon laquelle documentaire signifie retranscription objective des faits, rendant l'expression film documentaire synonyme donc d'une forme pauvre et stéréotypée. Interroger le réel avec les ressources propres au langage cinématographique serait pour nous la définition rendant compte avec le plus de justesse de la démarche du documentaire. Thierry Garel, directeur des programmes documentaires d'Arte, livre un point de vue qui nous semble, avec Gwen et moi-même...
Tout à fait.
Mais il est encore là. Très pertinent sur la fonction du documentaire aujourd'hui. En réponse à la crise des valeurs humanistes et à la fin des utopies dont il a fallu faire le deuil, le documentaire est désormais le lieu de nouvelles interrogations de l'homme par l'homme. Pas pour asseoir des certitudes, mais pour reformuler à l'échelle de microcosmes humains les questions essentielles de la vie. Donc... Le succès donc récent de certains films documentaires au cinéma, hein, comme l'a dit Gwen tout à l'heure, Le glaneur et la glaneuse, Être et avoir, hein, qui a été primé
à
Cannes,
oui.
Ainsi que la multiplication des manifestations culturelles liées aux documentaires, festivals ou initiatives tels documentaires sur grand écran à Paris, hein, bien sûr, parce que bon, tout se passe à Paris, on a encore centralisé, témoignent de la vitalité de ce cinéma. Différentes hypothèses peuvent être avancées afin d'expliquer cet intérêt du public et des acteurs du monde professionnel. Le développement d'outils numériques, hein, comme l'a dit Gwen, mais bon, je vais le répéter parce que lui, on ne comprenait pas bien, a banalisé donc l'accès à la fabrication d'images et a permis en même temps de réduire considérablement les coûts de fabrication d'un film. Par conséquent, la possibilité de réaliser un film se trouve désormais à la portée du plus grand nombre. Hein. Gwen, tu peux en faire un aussi sur ton nombril, si tu veux.
Non, sûrement pas.
Bon, un documentaire représente également l'alternative d'un autre cinéma pouvant relever d'une pratique artisanale face aux grandes productions de l'industrie cinématographique. Cependant, l'existence de divers festivals ainsi que le succès public de certains films ne doit pas faire oublier que sur les 2800 heures de documentaires produites annuellement en France, hein, plus de la moitié de ces films ne sont jamais diffusés sur les chaînes nationales hertziennes.
Tout à fait.
Du point de vue de l'économie audiovisuelle, le documentaire ne s'est pourtant jamais si bien porté. Depuis 10 ans, avec l'arrivée donc des chaînes thématiques et de France 5, hein, le nombre d'heures de documentaires produites a explosé, plus de 240% depuis 1997, hein, de 1900,
oui.
Selon le rapport Schwartz. Cette croissance de la production documentaire apparaît comme une conséquence directe de l'apparition de chaînes thématiques nationales. Arte est la cinquième. Puis maintenant, on voit les dernières qui sont arrivées aussi sur le réseau TNT,
voilà.
Qui contribuent à presque un quart du volume de la production annuelle. L'élargissement du réseau câblé a également suscité une demande plus importante, bien que le soutien financier apporté par ces chaînes privées thématiques soit moindre. La situation de concurrence accrue entre les chaînes incite désormais celle-ci à imposer des critères de plus en plus contraignants aux films devant être diffusés. Le documentaire dont dit de création a donc peu de place dans ce système et dépend largement de la télévision publique et des aides du CNC. C'est ce que c'est le CNC ?
Le Comité National du Cinéma ?
C'est très bien. 20% donc des documentaires diffusés par la télévision publique rentrent dans cette catégorie. Au cours d'un entretien donc pour le journal Le Monde, Jean-Marc Larocca, membre de l'Association des cinéastes documentaires, énonce les obstacles rencontrés auprès des diffuseurs. Les raisons du refus, hein, des projets, bien sûr, sont nombreuses. Parfois, le sujet ou l'angle selon lequel le réalisateur souhaite traiter le sujet ne convient pas. La forme, le style, la manière de mener la narration, la longueur des plans, le silence, tout cela peut gêner les diffuseurs car ils estiment qu'un plan silencieux de 30 secondes, par exemple, peut inciter le spectateur à aller voir sur une autre chaîne.
Eh oui.
Ainsi, le contenu et la forme des films diffusés se trouvent soumis à des normes laissant peu de place à la diversité des approches qui devraient pourtant être inhérentes au genre documentaire.
Ah ouais, non, mais ça, c'est oui, mais ça, je l'avais dit.
Non, mais j'ai pas fini.
Il a pas fini. Okay. Ah bah.
Non, mais c'est juste pour faire quelques informations sur, sur où et comment se renseigner pour...
Ah oui, d'accord.
Donc le film est documentaire.com, on peut aussi aller voir ça, donc vous trouverez tout sur l'histoire, la santé, société, voyage, sport, etc. Donc il y a aussi le mois du film documentaire, c'était la 13e édition en novembre 2012.
Mmh.
Donc cette année encore, un grand réseau s'est mobilisé sur le territoire, hein, en France bien sûr, pour permettre la programmation de nombreux films. Il y avait 1788 structures ont participé, des centaines de bibliothèques, donc salles de cinéma, structures culturelles et sociales, établissements éducatifs, collectivités territoriales et leurs partenaires.
Ouais.
Donc on a pu voir 1707 films de 1564 réalisateurs en 3074 séances et 278 programmations thématiques.
Oh ben, le cinéma, on l'aime. Hein.
Oui, c'est vrai. Pourtant, tout le mois de novembre, donc ça se passe au mois de novembre, ça, la manifestation a permis de faire connaître une diversité d'œuvres, de créer un moment privilégié pour le cinéma documentaire dans les salles de cinéma, de monter des projets conviviaux à destination de tous les publics grâce aux associations, structures culturelles, éducatives et sociales, et d'échanger avec les très nombreux spectateurs, réalisateurs et intervenants. Donc on peut aussi aller voir sur le film-documentaire.fr donc, qui vous renseignera sur les festivals et films, auteurs, festivals, ce qui est aussi intéressant.
Tout à fait.
Et aussi sur les livres qui sont liés au documentaire. On retrouve aussi sur ce site un annuaire avec tous les professionnels liés au documentaire. S'il y en a qui veulent, par exemple,
voilà.
comme je disais tout à l'heure, Gwen veut faire un documentaire sur son nombril, il peut aller sur
non,
ce site.
Non, mais je ne ferai jamais un documentaire sur mon nombril.
Bon, ben, on est sauvés. Donc, vous pouvez aller vous rendre sur ce site et vous aurez toutes les informations adéquates.
Oui, parce qu'effectivement, là, tu parles évidemment de cet intéressement au quotidien. Effectivement, il y avait le film « Être et avoir » de notre cher ami Nicolas Philibert, qui avait quand même marqué les esprits. Je voulais aussi rappeler que Marcel Olfus avait aussi fait un film qui s'appelle « La veillée d'armes », qui a été tourné à Sarajevo. Il y avait aussi « Un coupable idéal » de Jean-Xavier de Lestrade en 2002, et qui dénonce magistralement le racisme ordinaire et qui a été oscarisé, lui. Il y avait aussi une réflexion sur l'ordinaire d'une démocratie, le génie helvétique du Suisse Jean-Stéphane Bron, et qu'on connaît puisqu'il a poursuivi dans sa réflexion dans un néo-document au State qui est connu sous le nom Cleveland contre Wall Street en 2010.
Ah, oui, oui.
Voilà, c'est ça. Et il y a aussi, puisqu'en 1989, déboule un ovni qui, dans un film Roger and Me, dénonce la désindustrialisation des États-Unis, surtout dans la ville de Flint, qui est le berceau de General Motors. Et ce réalisateur n'est autre que Michael Moore. Donc c'est des films faussement naïfs, à la première personne, provocation bien préparée et un emploi iconoclaste de documents glanés un peu partout. Le film aura un gros succès et qui sera diffusé d'ailleurs par la Warner Bros. Évidemment, il fera d'autres films, Bowling for Columbine, qui sera oscarisé en 2003, Fahrenheit 9/11, qui sera palmé à Cannes en 2005, donc vraiment un poids lourd, et qui évidemment va encourager la production centrée sur la vie quotidienne, notamment la bouffe, puisqu'il y a Super Size Me de Morgan Spurlock en 2004, Mondo Vino de Jonathan Nussinger en 2004, et des films un peu plus dramatiques, Le Cauchemar de Darwin d'Hubert Super en 2004 et Le Monde Solo Monsanto de Marie-Monique Robin en 2008. Face à ces films extravertis, il existe encore un genre, des gens encore plus intimistes, donc la production faite par des cinéastes un peu plus confirmés, hein, donc le Vacances Prolongées en 2000 de Van der qui a consacré ses dernières forces à la création de son film. Alain Cavalier, qui était spécialisé dans les micro-productions, lance avec Le Filmeur en 2006, puis Irène en 2009, deux méditations sur la mort, celle de sa femme. Et puis en 2007, il y a aussi Elle s'appelle Sabine de Sandrine Bonner sur la maladie mentale de sa sœur aussi, qui était jugée autiste. Mmh. Ouais, c'est ça. En 1982, Agnès Varda avait su évoquer divers destins, dont ceux de ses voisins. voisin et le sien dans l'admirable Ulysse en 82, démarche dont on retrouve l'écho dans Les plages d'Agnès en 2008. Et en 94, Sophie Kahl racontait sa traversée avec humour de l'Amérique dans No Sex Last Night, traversée qu'on l'on retrouve chez notre truculent Antoine de Maximi en 2008 dans J'irai dormir à Hollywood.
Que des trucs à faire chialer. Moi de ma part, j'ai mangé des trucs
non, mais
plus gays. Comme...
Non, mais c'est normal, c'est normal.
Ce qui est passé au pastel, donc Marley, bien sûr, hein, de
oui,
Kevin MacDonald.
Aussi, oui.
C'est un documentaire consacré à la vie et à la musique et à l'héritage de Bob Marley.
Tout à fait.
On a aussi Senna de Arif Bardia. Donc c'est le destin exceptionnel, donc bien sûr, d'Ayrton Senna.
Senna da Silva.
Ses réalisations sur et en dehors de la piste, hein, sa quête de perfection et son statut mythique, hein, constituent le sujet de ce documentaire. On a aussi Cove, la baie de la honte, hein, de Louis Psihoyos. C'est bien sûr un documentaire relate le terrible massacre de plus de 23 000 dauphins chaque année dans la baie de Taji au Japon.
Au Japon, oui, tout à fait.
Il y a aussi donc un petit clin d'œil à notre ami Serge, hein, avec qui nous en a parlé de ça,
oui.
De Tous au Larzac,
oui,
de Christian Rouault. Donc c'est une incroyable lutte des paysans contre l'État pour sauver leurs terres. Hein. Il y a aussi donc Gazland, hein, de Joss Fox en 2011. Hein. C'est les plus importantes recherches de gisements de gaz naturel sont en ce moment entreprises donc à travers tous les États-Unis. La société Burton, il me semble.
Oui, Ali Burton, oui. Oh, bah tiens.
A développé une technologie donc, de forage, hein, la fracturation hydraulique, hein, ou gaz de schiste, hein, qui va permettre aux États-Unis de devenir l'Arabie Saoudite du gaz naturel. Mais cette technique est-elle sans danger? Donc, c'est ce que nous montre ce documentaire. On a aussi Tyson, bien sûr, pour parler un peu des sportifs, hein,
de
James Toback. Hein. On a aussi Au-delà des cimes de Rémi Thésier en 2009, hein, qui est un documentaire sur l'alpiniste Catherine Destivelle.
Ah, oui.
On a aussi dans le monde de la musique, hein, on a donc Metallica, hein, Some Kind of Monster, Led Zeppelin avec The Song Remains the Same.
Ça, c'est l'animateur qui parle.
Oui, bien sûr. Après, vous en avez, il y a CDC qui en a fait, il y a Baraka de Ron Fricka, hein, qui utilise le format 70 mm. Hein, le réalisateur et son équipe ont parcouru le monde pendant 14 mois, n'hésitant pas à aller dans des sites les plus reculés et les plus rares de la Terre. Hein. Il y a aussi, pour encore citer notre ami Serge, hein, les nouveaux chiens de garde de Gilles Balbestre et Yannick Kergott. En 1932, donc, l'écrivain Paul Nizan publiait Les chiens de garde, hein, pour dénoncer les philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de neutralité intellectuelle, hein, s'imposaient comme les véritables gardiens de l'ordre établi. Il y avait aussi donc Tous cobayes, hein, qui est passé pendant la semaine de l'écologie de Jean-Pierre Jaud sur les OGM et le nucléaire, etc., etc. Il y a aussi New York en septembre, hein, des frères Naudet.
Oui.
Océan de Jacques Perrin,
oui,
en 2010.
Tout à fait, oui, oui. La marche de l'empereur aussi.
Oui, Microcosmosme.
Mm-hmm, oui, exactement. Oui.
Qui nous offre le spectacle du monde sous-marin, hein, océan, je parle, hein,
oui,
des espèces qui le peuplent. Il y a aussi une vérité qui dérange, hein, l'engagement d'Al Gore dans la lutte contre le réchauffement de la planète.
Ouais, aussi, oui.
Donc on suit, je trouve, les documentaires suivent vraiment l'actualité du moment.
C'est-à-dire que, disons que des premiers documentaires que l'on connaît, évidemment, les sorties d'usine des Frères Lumière ou le train qui arrive en gare, qui sont vraiment des petits formats,
non, de
et évidemment, et sans le son, comme Véronique. Mais c'est vrai que maintenant, on arrive, je pense, mais là, on en avait parlé aussi pour d'autres films, à la surexploitation. C'est-à-dire que au début, quand les Frères Lumière avaient lancé leurs caméras à travers le monde, c'était pour le découvrir, puisqu'il n'y avait pas d'autres médias vraiment visuels pour connaître le monde. Après, évidemment, il y a eu tout cet engagement, toute la propagande des guerres de 14-18, de 39, d'Espagne, du Vietnam. Encore que le Vietnam, là, c'était plutôt pour lutter contre la guerre, mais pas pour la guerre. Donc voilà, il y a tout ce côté-là où effectivement le public, ça a commencé à connaître un peu plus le monde. Et là, je pense à se gaver d'images et de connaissances. Et là, je pense qu'on arrive, je dirais pas une limite, mais c'est-à-dire que, comme tu disais, quand tu voyais tous les festivals, le nombre de films qu'il existe, et est-ce que c'est possible de tout voir? Alors effectivement,
donc et surtout qui est diffusé?
Oui, mais qui est diffusé? Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais là, on se retrouve comme on avait fait avec Lucie sur les courts-métrages, c'est-à-dire que évidemment, c'est pour des publics spécialisés, quoi.
Alors, non, il y a de tout maintenant.
Non, mais je veux dire,
tous les sites qu'on a cités, tu peux aller
non,
voir.
Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, entre des trucs comme Microcosmos ou Être ou Avoir ou Mondovino ou Super Size Me, je veux dire, qui sont des trucs engagés et Vie ma vie sont sur des chaînes qu'on nommera pas, sur des reportages.
Même c'est pas un documentaire, c'est un reportage. Faut pas confondre. Après.
Oui, non, mais
je l'ai expliqué tout à l'heure. Point écouter, tu n'as.
C'est mon côté obscur.
Donc ta conclusion vite fait.
Donc
en deux
moi
mots.
Ma conclusion c'est que effectivement le documentaire est nécessaire, que ce soit les premiers qu'on a connus avec Flaherty.
Pourquoi faut-il les diffuser comme je
répète. Non mais tout à fait. Mais je pense que c'est quand même nécessaire des films comme Mondovino, Super Size Me, tous ceux de Michael Moore. Effectivement dirigés, puisque je veux dire c'est difficile pour un réalisateur d'être objectif dans ce qu'il crée. Et effectivement on se retrouve un petit peu comme ça a été pour la semaine de l'écologie face à un public converti d'avance, donc je pense qu'il est quand même nécessaire que les documentaires existent et par contre qu'il y ait une certaine indépendance, parce que comme on a dit sur les chaînes thématiques, c'est-à-dire que maintenant on veut du sensationnel, du claque sa mère, et, mais pas qu'il y ait des moments de blanc comme on dit, puisque sinon ils vont zapper ailleurs et que ça c'est mauvais pour l'audimat et que tout n'est que question d'audimat, voilà. Un documentaire ce n'est pas de l'audimat.
Moi je trouve que tu confonds un peu reportage et documentaire, mais c'est pas grave. Donc nous allons aller au pastel.
Tout à fait, le pastelisme.
Avec donc
3 films.
Sugarman.
Oui, Sugarman. Ça...
Qu'est-ce que c'est, encore un documentaire?
Oui, tout à fait, c'est un documentaire. Oscar du meilleur documentaire d'ailleurs. Hein.
Oui, 2013, et au BAFTA aussi.
Voilà, c'est ça, de Malik Bendjelloul. Superbe film, qui est encensé par la presse. Hein. Moi, j'ai pas trouvé un article où on a dit que c'était naze.
Oui, je me méfie maintenant de la presse. Alors, le cynisme, au début des années 70, d'accord?
Oui, tout à fait.
Comment est-ce qu'il s'appelle? Siato Rodriguez, hein?
Oui, tout à fait, Rodriguez.
Bon, enregistre donc 2 albums sur un label de la Motown. C'est un échec à tel point qu'on raconte qu'il se serait suicidé sur scène. Plus personne donc n'entend parler de Rodriguez, sauf en Afrique du Sud, où, sans qu'il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre l'apartheid. Tu l'avais connu à l'époque, toi?
Non, du
non,
tout.
D'accord.
Non, mais
t'étais trop nain.
Oui, j'étais trop nain, oui, tout à fait.
Donc, des années plus tard, deux fans donc, du monsieur partent à la recherche de Sugarman. Ce qu'ils découvrent est une histoire faite de surprises, d'émotions et d'inspiration. On a donc devant nous un documentaire consacré à un chanteur au talent immense dont l'écriture est comparée à celui de Bob Dylan, mais qui n'a jamais connu le succès. Donc, retour sur ses débuts à Détroit, mais c'est à des milliers de kilomètres de là qu'il deviendra un véritable mythe. Donc, difficile de vous en dire plus sans gâcher le plaisir.
Ah oui, tout à fait, oui.
Disons juste que c'est une histoire tellement incroyable et magique qu'elle en devient incontournable. Donc, c'est un film passionnant et bouleversant, à la fois fable réaliste, enquête et polar social. Un vrai conte de Noël, hein, comme Hollywood rêve d'en fabriquer.
Oui, tout à fait. Et puis, la bande originale du film est extraordinaire. Alors là, on se trouve évidemment dans le cadre d'un docu-fiction, puisque, effectivement, il y a des images de l'artiste, mais qui est joué par quelqu'un d'autre.
Donc, le deuxième documentaire, Gwen?
Oui, qui s'appelle...
C'est un film d'animation ou
oui,
c'est un documentaire?
C'est un film de Disney Nature. Tout à fait.
Mais c'est pas eux qui avaient fait Félin déjà?
Oui, tout à fait,
ah,
c'est les mêmes.
D'accord, chimpanzé. Hein,
c'est chimpanzé, oui. De Alastair Father Jill et Mark Lenfield. Je veux dire, c'est un film hein, comme documentaire, on peut le dire.
Ça n'a rien à voir avec la planète des singes. Hein.
Oui, tout à fait. Non. C'est l'histoire, effectivement, d'un petit chimpanzé qui est séparé de sa mère et qui va retrouver, grâce à un adulte, une vie inespérée. Alors. Dans la version américaine, c'est Tim Allen qui est le narrateur. En France, c'est Harry Habitant qu'on avait vu dans Dépression et des potes.
Ah oui, mmh. Oui, c'était marrant ça. Donc dans une forêt d'Afrique équatoriale, hein, Oscar, pour citer le petit singe.
Oui, ils ont toujours un nom.
Oui. Découvre la vie, donc...
Oui, je découvre la vie.
J'ai perdu mon mot.
Avec Francis Holm. Home sweet home.
Élevé par sa mère au milieu donc, de son clan, il apprend l'usage des outils, part à la recherche de nourriture et explore la nature alentour. Avec lui, donc, nous découvrons les relations sociales.
Sociales
Non, sociales.
Ah bon, d'accord.
J'ai bien le malin. Il y en a tout le long, toi, des mots comme ça. Entre ces grands singes, si proches de l'homme. Donc, tourné au fil des mois dans des conditions extrêmes, Chimpanzé raconte une histoire vraie, unique, un film aux images somptueuses et l'idée que l'Éden n'est jamais bien loin des enfers suffisent à rendre ce décor passionnant.
Et on se demandera, est-ce qu'il va recevoir à lui-même
un Oscar ?
Voilà.
N'importe quoi. Donc là, nous allons maintenant voir La religieuse de Diderot.
Oui, de Guillaume Niclou. Nivis ? Monsieur Patex, en gros.
C'est pitoyable de se moquer des gens comme ça.
Donc avec... Et c'est toi qui me dis ça ?
Oui, moi je suis pas comme ça. Pauline Étienne, donc Isabelle Huppert, qui joue le rôle de mère, je te touche un peu.
Oui, voilà, de mère touche-touche.
Oui. Et de Louise Bourgoin.
Oui, qu'on avait vu dans L'amour dure 3 ans aussi.
Et vraiment... Adèle Blanc-Sec, non ?
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Puis qui joue la méchante.
Donc, 18e siècle, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Suzanne, 16 ans, donc, est jouée par Pauline Étienne, est contrainte, ça me plaît, par sa famille à rentrer dans les ordres.
Oui, tout à fait.
Alors qu'elle aspire à vivre dans le monde.
Oui, enfin, elle est quand même croyante, hein. Il n'y a pas un rejet de la religion là-dedans.
D'accord. Au couvent, elle est confrontée à l'arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique, mère supérieure tour à tour bienveillante, cruelle ou un peu trop aimante.
Oui, tout à fait.
La passion et la force donc, qui l'animent lui permettent de résister à la barbarie du couvent, poursuivant donc son unique but, lutter par tous les moyens pour retrouver sa liberté.
Oui.
Donc c'est une belle adaptation dépouillée. Une réalisation terne et une photographie superbe soutiennent le jeu convaincant des acteurs.
Oui, tout à fait, puisqu'il faut quand même savoir que ce film, enfin, que ce livre avait déjà été fait en 1966 par Jacques Rivette. Donc
ah,
évidemment les deux
c'était
films.
C'est qui les acteurs là ?
Il y avait Anna Karina qui jouait le rôle de.
Non, Karinine.
Non, Karina, ah. Qui jouait le rôle de Suzanne. Donc voilà. Alors effectivement, les deux fins sont séparées. Par contre, hein, celle de Rivette se termine mal. Je ne raconterai pas comment on finit.
Donc, si tu as lu le roman, tu sais comment ça finit.
Oui, non. Après, il y a les adaptations, tu sais bien que... Voilà. Alors, donc effectivement, c'est un très beau film. Il y a la séparation parce que Rivette l'avait fait vraiment très sombre.
Non, là, c'est plus lumineux.
Voilà, c'est ça. Et le rôle aussi de Suzanne dans le film de Rivette semblait plus, comment ça s'appelle, abandonnée. Enfin, je veux dire, elle semblait plus être une victime. Alors que là, dans celui de Niclou, ça a l'air d'être plus une combattante.
Ça me fait penser un peu à Jeanne la captive, là, de...
Oui, voilà, c'est ça.
Avec Clémence Poésie.
Clémence Poésie, oui. Bah, c'est-à-dire que cette pauvre fille, elle est enfermée au couvent parce que sa mère a fauté. Finalement, au début, elle va accepter, puis se rebeller puisqu'elle ne veut pas devenir bonne sœur. Il y aura évidemment la mère gentille qui va l'aider, puis la mère méchante qui va carrément la briser. Et puis finalement, comment ça s'appelle, Isabelle Huppert qui va faire
des bisous bisous,
qui va vouloir faire des bisous bisous. Donc voilà cette pauvre fille qui est victime. Voilà, faudrait qu'on en parle à François quand même. C'est pas bien ce qu'il fait quand même. Je pense qu'il y a moyen de moyenner pour que.
Oui, donc déjà même du côté des sœurs, ça a existé.
Donc, eh ben, ma foi, trois films assez.
C'est le mot la foi.
Assez ecclésiastiques. Non,
éclectique.
Voilà, c'est éclectique, tout à fait, puisque évidemment un film un peu Disney, un film un peu plus sérieux sur la religion et aussi sur la condition de la femme, hein. Et puis Sugarman qui est évidemment un film
un
documentaire. Voilà, c'est ça, sur un
fantôme.
Un fantôme et sur un pays en crise. L'Afrique
surtout, avant tout, sur la musique.
Oui, aussi. Oh, oui, mais tout à fait. Oui, mais c'est.
Oui,
grâce,
oui,
non,
il faut le dire. C'est un musicien.
C'est
un musicien.
Oui, tout à fait. Bon. Mais la musique est très importante dans la lutte. Donc voilà.
Au final.
Donc la semaine prochaine, mon cher Hugo, puisque, comme ça s'appelle.
C'est trop long. Bon, ben merci.
Je suis Brie Maille. I'm impressed.
On parlait 40 minutes en monologue.
Oui, désolé.
Quel est le sujet ?
Alors donc, la semaine prochaine, puisque nous avons fait la Nouvelle-Zélande, mon cher Hugo.
On va faire le Portugal ?
Non, on ne va pas faire la Portugal.
Portugal, ben
non. Non, le Portugal. Non, on va aller un peu plus à l'est.
Il n'y a rien de nouveau.
Non, ça c'est à l'ouest. C'est à l'est d'Éden, par contre. Non, on va s'attaquer à...
J'attaque personne, moi.
On va parler...
Oui.
Sur...
Oui.
Bollywood.
On parle pas sur... Ah d'accord, nous allons traiter du sujet Bollywood.
Oui, tout à fait.
Non, je parle pas de l'Inde, en soutien aux femmes qui sont violées collectivement là-bas, je ne fais pas ce sujet. C'est Bollywood en ce moment, c'est plus Bollywood.
Voilà. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, Bollywood font référence évidemment aux studios
qui
sont à Bombay, enfin on dit Mumbai maintenant, mais il faut savoir aussi, c'est tout le cinéma indien, puisqu'il y a... Et divers studios en Inde quand même.
Donc Bollywood,
c'est ça.
Des bons films à mâcher.
Oui, à chanter, à danser, comme ça. Mais... Voilà, non, mais en fait c'était une référence pour Pierre et Marie.
Curie.
Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, chers auditeurs, j'espère que le sujet a été un peu débattu. Il est vrai qu'il était vaste.
Souvent soporifique avec Gwen. Mais... Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez laisser des messages.
Tout à fait sur la page FB. De...
Vous oui ou non d'accord avec le temps de parole.
Donc le front de soutien a eu lieu, oui. Okay, c'est ça, mais sur la page FB. Voilà, donc c'est vrai que c'était un sujet assez large et difficile à traiter.
Sur la langue. À bientôt.
Donc à bientôt. Je suis désolé, allez, ciao.
I love the smell of napalm in the morning. Life was like a box of chocolates.